Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Notre monde est stone, pour reprendre une chanson de Starmania qu'avait interprétée Fabienne Thibault puis France Égal. Oui, notre monde nous paraît souvent à la fois dur, froid comme la pierre, ou complètement fou, cynique, sans repère et sans âme. À la lecture de ce roman très ancré dans la réalité, on est frappé une fois encore par la dichotomie existant entre notre vie somme toute tranquille, bien que parfois traversée par une sanglante actualité, et ce qui se vit dans le reste du monde, particulièrement dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient, où règne le chaos le plus total. À travers différents personnages qui évoluent entre la Somalie, l'Éthiopie, la Turquie, l'Irak, la Libye, l'Algérie, l'Égypte et bien sûr la France, à travers leur histoire personnelle, nous avons une vue panoramique des situations et des événements actuels. Ce roman, qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française, s'intitule « Mécanique du chaos ». Il est édité chez Grasset et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Daniel Rondeau. Daniel Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Voilà, est-il nécessaire que je vous présente à nos auditeurs?
Oui, sans doute, bien sûr.
Alors, vous êtes un diplomate français, vous êtes ambassadeur permanent auprès de l'UNESCO, vous avez été ambassadeur à Malte, vous êtes journaliste, d'ailleurs je pense que vos débuts ça a été le journalisme. Hein.
Mes vrais débuts c'est l'usine.
Ah oui.
Je rentre dans la vie, j'ai 20 ans, je suis révolutionnaire.
Dans les années 70.
Je veux changer le monde et je vais travailler 4 ans à l'usine. Au bout de 4 ans, je comprends que la justice...
Comme Simone Veil.
Exactement, qui est d'ailleurs quelqu'un d'extraordinaire et un très grand écrivain. Et au bout de 4 ans à l'usine, je comprends que la justice idéale, qui était mon but, n'est sans doute pas de ce monde. Et je me dis, si tu ne peux pas, tu ne pourras pas changer le monde, mais au moins, tu vas passer ta vie à le raconter. Et c'est ce que je fais depuis... presque 50 ans.
Voilà, alors
donc j'ai été journaliste, oui. Effectivement, j'ai commencé comme
dans les radios aussi.
Dans une petite radio à Nancy, qui s'appelait Radio Nord-Est. J'aimais beaucoup la radio d'ailleurs, je trouve que c'est un instrument absolument extraordinaire.
Vous avez bien raison.
Il incite à la confidence, c'est que... Il met la personne qui est interrogée, peut-être aussi la personne qui interroge, en confiance. Mmh. Et puis après, j'ai été journaliste. J'ai eu la chance d'être journaliste. On est venu me chercher. J'ai dirigé les pages culture de Libération. J'ai travaillé pour l'Obs. J'étais éditorialiste à l'Express pendant 10 ans, éditorialiste littéraire. Mais en fait, mon obsession, c'est toujours la littérature. Donc, pour écrire, j'ai besoin de temps en temps de vivre. Et puis après, les occasions que la vie m'a données, je les ai saisies, le journalisme, la diplomatie, mais je suis toujours rentré chez moi après pour écrire.
Alors oui, moi je reprends une phrase de Thibaudet que vous citez sur Thucydide. La pure vie historique semble exiger le déracinement comme la pure vie philosophique exigeait le célibat. La pure vie historique semble exiger le déracinement. Vous avez vécu ailleurs ?
Oui, bien sûr. J'ai vécu à Malte pendant... En fait, j'ai toujours beaucoup voyagé, oui. Si vous voulez. Mais notamment autour du bassin méditerranéen, oui. Puisque j'avais une passion depuis l'enfance pour la Méditerranée. Enfin, c'est Camus qui a été... Moi, je suis un enfant des vignes, des livres et des bois, puisque je suis né en Champagne, dans un petit village de vignerons, où mon grand-père, où mes parents étaient instituteurs, et mon grand-père était un modeste vigneron. Donc je suis vraiment un enfant de la campagne, et en même temps, j'ai eu la passion de la lecture très tôt. Et j'ai été attiré tout de suite, naturellement, plus je progresse dans mes lectures, je lis l'Histoire Sainte, ça ne se passe pas ni à Toulouse, ni à Lutèce. Donc on est...
Et encore moins à New York.
On est... Les noms qui existent dans l'Histoire Sainte, c'est Jérusalem, c'est Bethléem, c'est le Golgotha, c'est Damas, c'est Cana. Donc j'ai d'abord été attiré par la puissance poétique de ces noms de lieux, de ces patronymes, de cette histoire orientale. Et puis après, j'ai progressé dans mes lectures. Et en fait, en Champagne, c'est une région beaucoup de brouillard, surtout à l'automne et en hiver, en ce moment. Et j'ai découvert la lumière à travers les livres de Giono, qui était mon premier auteur préféré. Quand j'étais encore dans l'enfance, les premiers romans de Giono, la première formule. Et puis ensuite, j'ai découvert, quand j'étais au lycée, je pense que j'étais en cinquième, j'ai découvert les romans d'Albert Camus. Et Camus m'a fait traverser la mer. Je vivais à Chalon-sur-Marne, mais grâce à Camus, je traversais la mer.
On peut très bien voyager dans sa chambre.
Bien sûr, et puis c'est le privilège des livres.
Des livres, ouais.
Écrire, c'est vivre deux fois, parce qu'on peut... On a vécu, puis on peut raconter ce qu'on a vécu. Et en même temps, le lecteur, il a aussi ce privilège de vivre la vie des personnages, des romans qu'il lit.
C'est vrai, c'est vrai. Alors donc, écrivain, éditeur aussi, vous êtes de ceux qui ont donc la plume pour témoigner. Mais pourtant, malgré les informations que vous nous donnez et qui sont, on peut estimer, parfaitement étayées, cet ouvrage se veut un roman.
Non, cette histoire, ce livre, Mécanique du chaos, c'est d'abord avant tout un roman.
Voilà.
Ce que je veux raconter, c'est une histoire. Je n'ai pas écrit un essai.
Oui, mais en même temps, c'est ce que l'on connaît là actuellement.
C'est un roman d'aujourd'hui. Contrairement à d'autres romans qui étaient sortis à l'automne dernier, qui étaient des romans qui s'intéressaient à la guerre, Deuxième Guerre mondiale, moi, ce qui me passionne, si vous voulez, c'est l'actualité, c'est mon pays. Mon dernier roman, Dans la marche du temps, c'était l'histoire de la France au XXe siècle à travers deux personnages, un père et un fils. Et mon idée était de montrer comment les Français... pendant ce XXe siècle, avaient traversé des épreuves terribles, de guerres, ils avaient affronté les totalitarismes, ils avaient connu des petites et de grandes apocalypses, mais en même temps, à mon sens, la plupart des Français avaient traversé ces épreuves en gardant la tête haute. Et si vous voulez, je voulais continuer cette histoire, notre histoire, au XXIe siècle. Or, notre France, elle a complètement changé. Ce n'est plus tout à fait le même pays. Le monde a changé. Il y a une accélération de l'histoire sans précédent, une révolution technologique. Donc la France, notre pays d'aujourd'hui, celui que je voulais raconter, c'est un pays où la société est un peu une société liquide, comme dirait Umberto Eco, c'est-à-dire dans une société liquide, les gens flottent. Ils ont perdu un peu leurs repères. On a beaucoup déconstruit, on a déconstruit notre histoire, on a déconstruit notre langue, on a déconstruit notre paysage spirituel, on a déconstruit nos piliers, les piliers de la société. Et donc les gens sont sans point de repère.
Est-ce qu'on peut être optimiste, justement?
Oui, on va être optimiste.
Bon.
Je termine en disant en même temps qu'ils flottent, ils sont connectés avec le monde entier. Donc ça nous donne, c'est vrai, nous sommes tous connectés en permanence avec le monde entier, avec l'étranger, avec Facebook, avec Internet. On a tout le monde entier, chacun parle à chacun.
C'est vrai.
Chacun parle à son chacun
pour
dans le monde entier. Donc ça nous donne des sociétés où les gens sont un peu perdus. Ils ne savent plus très bien qui ils sont, ce qu'ils pensent, où ils habitent, d'où ils viennent, où ils vont. Et c'est un peu l'histoire de ces personnages d'aujourd'hui, des Français relativement ordinaires, que j'ai voulu raconter. Et l'histoire commence dans une petite ville de banlieue, qui est un terreau romanesque extraordinaire. Ces petites villes de banlieue qui sont à proximité de toutes nos grandes villes, je pense qu'à Toulouse, vous connaissez. Et donc, ce sont des vies que l'on ne soupçonne pas toujours, que l'on ne connaît pas, mais qui sont extrêmement romanesques, et c'est ça que j'ai voulu raconter.
Alors, effectivement, vous avez très bien introduit votre roman parfaitement. C'est vrai que ce pourtour méditerranéen, je me dis, effectivement, ce que vous dites, ce sont des lieux mythiques, c'est le creuset de notre civilisation. Ce sont des lieux aussi qui ont été investis par les pays européens. Oh, il ne faut pas l'oublier, ça.
Non, ce sont des lieux qui ont été... Le bassin méditerranéen était aussi, puisque un de mes personnages est un archéologue. Donc, on suit, quand on suit les chantiers de fouilles de l'archéologue, on voit bien qu'il est en Libye. C'était investi d'abord par l'Empire romain. et que dans tous ces pays, bon, je parle de la ville de Leptis Magna où a travaillé mon personnage.
Merci Daniel Rondeau de nous faire bénéficier parce que de votre culture, parce que je dois vous avouer que je ne connaissais pas vraiment, et du coup vive Internet. Vous voyez, je vous rejoins, vive Internet, parce qu'effectivement, ça donne envie, vous donnez envie d'aller plus loin.
Non, mais c'est de l'autre côté de la Méditerranée, il y avait, prenons cet exemple de Leptis Magna, c'était une grande ville, qui a enfanté d'ailleurs un empereur romain. Dans cette grande ville, on vivait comme à Rome. Il y avait des savants, il y avait une université, il y avait des juristes, il y avait des thermes, des spas. Maintenant, tout le monde va au spa, personne ne sait ce que c'est. Le spa Salute Peraqua. Donc, il y avait des thermes, des spas.
Des statues magnifiques.
Des statues, des artistes. Et cette ville de Leptis Magna, qui était sur le rivage libyen, elle était connectée par la route à Tanger, à Tombouctou, à Alexandrie. Et elle était naturellement reliée en permanence à Rome par un système de bateaux qui allait jusqu'au port d'Ostie. Donc, c'était, si vous voulez, pour les Romains, c'était une sorte d'îlot d'orgueil civique. Et brusquement, cette ville a disparu sous les sables, les habitants sont partis ou ont été tués, et la ville a disparu. Donc, en fait, c'est une petite métaphore que j'utilise à travers ce personnage de l'archéologue qui s'appelle Grimaud. J'utilise un peu mon personnage pour faire passer en douce.
On l'a bien compris, Daniel Rondeau.
Petit message. Et bon, là, c'est que tout passe et que aussi tout peut disparaître.
Oui. Oui
si on n'y prend pas garde, nous vivons dans des sociétés prospères, riches, heureuses, démocratiques. Elles sont sous notre protection.
Attendez, vous dites tout peut disparaître, mais je vais vous dire, vous venez de nous parler de cette ville, tout peut réapparaître, parce qu'au bout de 1000 ans, pendant 1000 ans, elle a été sous les sables.
Bien sûr qu'elle était ressuscitée symboliquement, d'une certaine façon, mais elle n'est plus habitée.
Elle n'est plus habitée.
Donc elle a perdu son âme, elle a gardé la magnificence des pierres dans son écrin méditerranéen. C'est une ville extraordinaire, mais elle a perdu son âme. Donc nous sommes un grand pays, les pays européens sont des en général de plus ou moins, mais de vieux pays, et avec une histoire, une culture très forte, un paysage spirituel, et on sait que tout cela, il faut savoir que ce sont nos trésors, et si nous
ne les aimons pas,
si nous ne les aimons pas assez, ils s'en iront.
Mmh. C'est fragile. Oui. Et justement, alors là, vous mettez à nu les ressorts de ce que nous pourrions appeler le grand chaos qui se manifeste ailleurs actuellement dans votre titre « Mécanique du chaos ». Il y a un S à mécanique. C'est donc au pluriel, à travers donc ces différents personnages dont nous allons parler. Mais on voit bien les ressorts, il y a la misère quand même, déjà. La misère en Afrique. Et on le voit.
Il y a deux choses.
Il y a plusieurs
ressorts. Il y a plusieurs choses. Si vous voulez, quand j'ai l'idée de ce roman.
Ah, oui. Hors antenne, je dois dire à nos auditeurs que je vous ai demandé.
Dans l'escalier.
Mais comment avez-vous eu l'idée? Comment avez-vous l'idée de vos romans?
J'ai l'idée de ce roman en 2007.
Oui.
En 2007, parce que je vois bien que la situation dans certaines villes de banlieue est devenue désespérée et désespérante. Et elle est devenue désespérante puisque la République
n'y est plus.
Dans ce cas-là, le plus sublime, c'est-à-dire son œuvre d'éducation, elle est empêchée d'exister et que d'autre part, la République ne peut pas faire respecter sa loi. Donc, en 2007, le phénomène est déjà là. Donc, il se manifeste, c'est-à-dire la nature a horreur du vide. Si la République se retire, d'autres pouvoirs apparaissent. Les pouvoirs qui apparaissent dans ces petites cités de banlieue, ce sont les pouvoirs de ceux qui sont les dealers, qui font le trafic de drogue, les petits trafiquants, les voyous qui, avec toute une hiérarchie. Donc c'est eux qui vont remplacer l'autorité de l'État. Et déjà, à ce moment-là, ils commencent à faire la jonction, parfois dans certains quartiers, avec un islamisme radical Bon, ils font la jonction parce qu'ils s'entraident pour prendre, pour garder le pouvoir, pour prendre le pouvoir. Donc, en fait, en 2007, il y a déjà beaucoup de gens ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur, sur cette situation. Des éducateurs, des professeurs, des assistantes sociales, des policiers, des préfets, des fonctionnaires.
Et rien n'a été fait.
Et si, beaucoup a été fait, mais qui ne suffisait pas. Je crois qu'on a donné beaucoup d'argent aux, aux banlieues, je pense notamment au plan Borloo. Borloo a travaillé avec cœur sur ce... Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas un plan pour les banlieues, il faut un plan pour la France.
Donc, vaste programme.
Non, mais vaste programme. Donc, moi, je commence à travailler sur cette idée en 2007. Et puis ensuite, j'ai déjà écrit, je suis nommé ambassadeur, à ma grande surprise, et je pars pour Malte en 2008, 23 juillet. Et en fait, j'emporte mon manuscrit dans mes valises en me disant j'aurai peut-être le temps. En fait, je n'ai jamais ouvert ce manuscrit de 200 pages. Pendant tout le temps, j'étais ambassadeur.
Il a mûri.
Parce que je n'ai pas eu le temps. Mais quand j'arrive à Malte, le premier jour de mon arrivée à Malte, c'est pour ça que je connais très bien la date, 23 juillet 2008, je fais le tour de l'île et je suis très surpris de voir des hélicoptères en vol stationnaire. Et je demande ce que font ces hélicoptères, et on me dit, non, mais c'est pas grave, ils sont en train de repêcher des migrants qui se sont noyés. Je dis, ah bon ? C'est fréquent ? Oui, c'est très fréquent. Donc, en fait, quand j'arrive en 2008, il y a déjà énormément de migrants subsahariens qui quittent, notamment la Somalie, puisque c'est un exemple que je prends, les gens s'en vont parce qu'ils sont maltraités par les djihadistes locaux, les Shehabs. Ils s'en vont, ils traversent le Sahara dans des conditions que vous n'imaginez pas. Ils arrivent en Libye, ils attendent et ils travaillent comme esclaves pendant un certain temps pour payer le prix de leur passage en Méditerranée. Et déjà, à cette époque-là, ils se noyaient. Et personne n'en parlait.
Oui, en 2007.
En 2008. 8. Et bon, ça va être mon premier objectif politique comme ambassadeur de France à Malte, c'est de mettre cette situation des migrants sur la table, cette tragédie des migrants, et je ferai comme ambassadeur, j'écrirai dans Le Monde un grand papier de 2 pages sur les boat people de Malte. Et je crois que c'est la première fois, à ce moment-là, que quelqu'un met avec un peu de force et de véhémence cette tragédie, la porte aux yeux et à l'attention de tous. Donc ce sont, et je vais accueillir de certains migrants, on va faire le maximum, la France va faire le maximum pour eux, et notamment j'en rencontre énormément, et la Benjamine des gens que j'ai rencontrés, elle avait 14 ans et demi, elle venait de Somalie, elle avait traversé 2 enfers, le désert et la Méditerranée, et elle avait un sourire d'ange, et elle s'appelait Abiba. Donc voilà. C'est la deuxième... Comment j'écris ce roman ? Il y a eu 2 impulsions. La première, c'est la situation des banlieues, où les gens sont abandonnés. Et deuxièmement, c'est un roman sur la migration.
Voilà. Alors, Daniel Rondon, moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous dites, parce que quand j'ai parlé de la misère, je pensais effectivement à l'immigration, par exemple, de gens comme Abiba, venant d'Afrique. Là, il y a quand même une grande misère. Quand vous dites, les gens sont abandonnés en banlieue, ils ont droit à l'école, à la santé, à beaucoup de choses. Donc, il y a d'autres raisons.
Non, bien sûr, c'est pour ça que je dis que la raison... Enfin non, il y a plusieurs... Mais j'ai un personnage qui s'appelle... qui est un vieil Algérien qui a toujours vécu là, à
Torbay. Qui est très émouvant.
Il est là depuis 40 ans. Il a travaillé toute sa vie. C'est un honnête homme. Il s'appelle Bouadiba. C'est un Chibani, si vous voulez, ce qu'on appelle un Chibani. Oui, oui. C'est-à-dire les hommes aux cheveux blancs. Et il a vécu modestement, bien évidemment, mais fièrement. Il a une femme, 3 enfants. Il a élevé ses 3 enfants. Il se trouve que il ne peut plus sortir de son appartement, qui est au 3e étage d'un immeuble de banlieue, puisque la cage d'ascenseur est tenue par des petits caïds qui font la loi et qui s'occupent de vendre de la drogue en bas de la cage d'escalier. Donc, il est ce vieil Algérien qui a l'impression qu'il a respecté toute sa vie les lois françaises. Il a élevé sans doute ses enfants dans l'amour de notre pays et du sien, naturellement. Il est doublement déçu parce que son pays aussi l'a déçu, parce que la liberté et l'indépendance ont été confisquées par les pouvoirs successifs, ou la plupart des pouvoirs successifs qui se sont succédés en Algérie, mais d'autre part, son pays d'accueil, qui est, quand on dit pays d'accueil pour lui, c'est une réalité. Son pays d'accueil n'est plus en mesure de lui garantir la plus élémentaire sécurité. Donc il va une fois par semaine à la mosquée, parfois en se faisant insulter, enfin bon, il rentre chez lui, il est condamné à regarder le monde par la vitre de son appartement. Bon, c'est aussi cela que je veux raconter, c'est toutes ces vies contemporaines de Français ordinaires, si vous voulez.
Oui, alors moi je pensais, oui, je me disais la misère pour notre pays. Vous avez évoqué la perte de valeur, la perte de... même sur le plan de la spiritualité. Et effectivement, là où il n'y a plus rien, il y a d'autres choses qui s'engouffrent, effectivement. Peut-être aussi ce monde de l'argent, finalement. Il y a quand même beaucoup de cupidité. Et vous en parlez, il y a toute forme de trafic. Alors, pétrole, évidemment, mais après, ça a été, c'est la drogue. Pas après, c'est tout conjointement. Le trafic maintenant de tout ce qui est archéologie, de tous les vestiges, le trafic des hommes, vous parlez d'esclavage, hein, en Libye, moi j'ai encore lu un texte d'un auteur, d'un journaliste allemand qui s'est fait passer pour un candidat à la traversée, et il disait, mais c'est effarant.
Oui, bien sûr.
C'est l'argent aussi qui domine.
Bien sûr. Un petit peu. En fait, à travers mon histoire, c'est la préparation d'un attentat islamiste en France.
Oui.
Et à travers cet attentat, je montre comment s'organisent les réseaux. Les réseaux ont besoin d'argent, donc ils ont effectivement, ils trafiquent les œuvres d'art. Ils ont beaucoup trafiqué en Syrie, en Irak, en Libye et ailleurs. Donc, j'ai pris comme exemple la Libye, puisque c'est un exemple très particulier. C'est peut-être le chaos le plus proche de nous, parce que c'est très près de la France, la Libye. Et puis... j'ai montré aussi, puisque c'est la préparation d'un attentat islamiste, j'essaie de montrer à travers mes personnages. En fait, tous mes personnages sont flottants, comme je le disais au début. On est dans une société liquide, donc on a un policier qui est chargé de l'antiterrorisme, mais lui, il flotte. Parce que
pour des raisons personnelles.
Oui, pour des raisons, mais ça compte.
Ça compte, bien sûr.
Il est ravagé par son divorce, il est plaqué par sa femme, donc c'est son obsession. Comment est-ce qu'il va retrouver sa femme? Est-ce qu'il va la reconquérir? Qu'est-ce qu'il va faire de ses deux filles?
En même temps, il croit à ce qu'il fait.
En même temps, il croit à ce qu'il fait. Donc, c'est compliqué pour lui. Le chaos est aussi dans sa tête. Il y a une petite bretonne, petite bourgeoise bretonne de Rennes, milieu ordinaire, pas de souci d'argent, simplement tentée par l'anarchie à un moment de l'adolescence, comme ça peut... Ça peut arriver à tous nos enfants de traverser des périodes de refus. Bon. Et puis finalement, elle s'aperçoit, son jugement sur la société, elle va trouver que l'argent joue trop d'importance. Elle se prostitue en même temps comme étudiante. Elle reprend des études, elle fait sa cagne, elle se prostitue et en même temps, elle trouve que cette société n'est pas celle dont elle veut.
Oui.
Et elle va choisir... un autre camp, qui est le clan de la pureté absolue, si vous voulez, soi-disant pureté absolue,
oui,
parce que naturellement,
voilà.
C'est... Mais voilà, les tentations sont multiples et polyformes.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que, justement, chacun représente quelque chose. Enfin, il y a une forme de symbole également dans chacun d'entre eux. Et c'est vrai que, pour moi, le film conducteur était l'archéologue, mais vous avez raison, il y a Habiba également, qui est un fil conducteur. Mais en définitive, en regardant de plus près, ce sont tous des fils conducteurs d'une certaine vie, de certains problèmes, de certains conflits, dont nous allons encore parler. Mais avant cela, nous allons écouter un tout petit peu de musique, un extrait seulement malheureusement. Blues March, c'est vous qui l'avez choisi. C'est dans votre ouvrage en tout cas.
C'est un des morceaux préférés d'un de mes personnages, cet archéologue justement.
Ouais, de vous donc.
Parce que cet archéologue s'est marié très très jeune et qu'il avait... célébrer son mariage il y a un certain temps déjà dans un petit club, enfin dans un club de jazz réputé à Paris. Et il aime beaucoup dans ce club de jazz. Jazz Messenger s'était passé, ils avaient donné un concert mémorable. Et je crois que l'indicatif de cet orchestre, des Jazz Messenger, c'est d'Art Blakey, c'est bien cette marche qu'on appelle Blues March et qui commence par un roulement de batterie.
Voilà, et nous écoutons un extrait de cette marche.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, on avait dit un court extrait de Blues March, un court tour extrait, parce que nous avons hâte, bien sûr, de retrouver Daniel Rondeau. Et nous parlons de Mécanique du chaos, édité chez Grasset. Mécanique avec un S, parce que c'est inextricable. On se dit, mais comment va-t-on s'en sortir? Vous avez une recette, vous?
Non, j'ai pas de recette. Si vous voulez, si j'écris ce livre, c'est pour parce que je pense que le roman nous permet de rentrer, de comprendre la complexité des choses plus peut-être qu'un essai ou qu'un article. J'ai écrit des articles
certainement
sur tous ces sujets, des articles, j'ai publié des articles dans Le Monde depuis plus de 20 ans. Je crois que le grâce aux personnages qui sont tous complexes, vous avez vu que mes personnages, on dirait toujours que je... Prenons cet archéologue, puisqu'on en a déjà parlé. Il est complexe et que de temps en temps, il est ambigu. On dirait qu'il hésite un peu entre le bien et le mal. Même s'il ne tombe jamais
Oui, alors moi je vais le défendre, parce que finalement, je vais défendre votre personnage, parce que finalement, moi j'étais persuadée qu'il n'hésiterait pas, en fait, et en particulier ce trafic d'objets antiques.
Il aurait pu, bon, ce n'est pas pour
il
lui.
Il aurait pu, mais c'est
mais
pas
à un moment, je maintiens l'ambiguïté. Je pense que cette ambiguïté, c'est un peu la nôtre aussi. La plupart d'entre nous, nous sommes ambigus face à cette réalité qui nous entoure aujourd'hui.
À ce pouvoir de l'argent, entre autres.
Ah, oui, ce pouvoir de l'argent.
À ce pouvoir tout court.
Au pouvoir, à l'extraordinaire débordement sexuel aussi qui nous entoure, qui est devenu un spectacle pour les enfants, les adolescents. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a le sexe, l'argent, le pouvoir.
L'aventure.
L'aventure, la disparition de la liquidation, la déconstruction de tout ce qui faisait de tout ce qui faisait les piliers de notre société, y compris la culture, la lecture,
oui.
Bon.
Oui.
On a déconstruit, ça veut pas dire... Donc, je pense que tous ces personnages, les tentations sont multiples, le socle et les références et les points de repère sont flous, ont disparu, donc ils sont tous un peu errants. Est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste? Moi, je suis d'un naturel optimiste, et d'ailleurs, mon personnage cite, vous avez... il cite Polybe, un historien grec qui dit « il ne faut jamais sous-estimer la fortune ». Alors estimons, appelons la fortune comme on veut, bonne fortune, le destin, la chance, la providence.
Oui.
Mais elle existe. Et il faudra qu'on puisse saisir notre chance le jour où la chance se présente.
On dit d'ailleurs que la France peut s'enfoncer et que justement, c'est au moment où vraiment on commence à ne plus y croire qu'elle remonte.
Oui, bon, il me semble que déjà elle a remonté.
Elle est en train.
Je pense que notre paysage s'est modifié depuis quelques mois. Je pense naturellement, je dirais, pour être précis, depuis l'élection d'Emmanuel Macron.
Donc que un l'on peu plus d'espoir, d'espérance.
Non, mais que l'on ait voté ou pas
pour
Emmanuel Macron.
Ouais.
Je crois que les Français, qui étaient gagnés depuis 30 ans par une sorte de mélancolie, une dépression un peu lourde... qui pesait sur...
Et que personne ne comprenait.
Que personne ne comprenait, mais qui nous enfonçait. Brusquement, nous avons un peu regagné le sourire. On a retrouvé le sourire. Et une chose encore plus certaine, c'est que, vu de l'étranger, la France est devenue plus souriante. Bon, beaucoup de mes personnages sont étrangers, j'ai des liens avec beaucoup de pays étrangers. Je vois bien comment réagissent les gens aujourd'hui. Bon, surtout que... Nous avons un peu de chance. Nous avons une Amérique qui est gouvernée par Trump. Qu'on pense ce qu'on veut de Trump, ce n'est pas mon propos. Mais en tout cas, du coup, l'Amérique est un peu, se met
en
un
retrait.
Peu en retrait ou en dehors. Et je vois, par exemple, j'ai des amis sud-américains, des diplomates français en Amérique du Sud, qui nous disent « la France paraît vraiment maintenant le recours ». Retrouve ses couleurs. Bon, je vois en Europe, notre Europe, elle est par terre. Il faut la reconstruire. Mais...
On y croit.
Mais Madame Merkel n'est pas en bonne forme. Donc, c'est aussi une chance pour nous. Donc, nous avons brusquement, on voit une sorte de petit alignement de planètes.
Encore faut-il que notre chef d'État sache prendre...
Que notre chef d'État, et bien sûr, bien évidemment, et que nous, Français, nous soyons capables d'assumer ces choix.
Alors, justement, vous parlez de... l'absence de repères, le nihilisme général que nous avons connu, que certains connaissent encore, engendré par la destruction, on dirait, du paysage spirituel de l'Europe, parce qu'il y a eu le nazisme, il y a eu le communisme, il y a eu... Bon, on s'en est toujours pas remis. On s'en est pas remis.
Non, en fait, naturellement, le communisme et le nazisme, ils ont été vaincus militairement, mais me semble-t-il, ils nous ont laissé une formidable bombe à retardement qu'est le nihilisme. On ne croit plus en rien.
Enfin, Voltaire avait déjà...
Oui, Voltaire avait préparé le terrain.
Oui.
Mais si vous voulez, Voltaire préparait le terrain, mais sans les millions de morts que nous ont infligés aux Européens et le communisme, le stalinisme et le nazisme. Donc on a eu deux pouvoirs despotiques, sanguinaires, qui ont miné complètement les bases de notre paysage spirituel. Or, ils ont été vaincus militairement, mais ils nous ont laissé cette bombe en héritage, cette façon de douter de tout,
désenchanté.
De ne pas nous aimer nous-mêmes, de ne plus croire en nous, désenchanté. Vous avez raison.
Alors, Daniel Rondeau, justement, tout à l'heure, vous parliez des 30 dernières années. Enfin, on est passé par les 30 glorieuses où la France était en train de vivre pleinement, il n'y avait pas de chômage, etc.
Oui, les 30 glorieuses, c'est avant les 30 pleureuses.
Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'à un moment donné, vous dites, la France qui, je ne sais plus qui dit ça, une nation, on est une nation qui s'ennuie.
Oui.
Ça a été ça.
On s'ennuie avec nous-mêmes.
Oui.
Bon, je pense que c'était, si vous voulez, on était frappé à la fois d'une amnésie, amnésie de notre histoire. Quand je dis déconstruire notre histoire, déconstruire notre paysage spirituel, cela nous a rendu un peu amnésiques. On ne sait plus qui nous sommes. On ne sait plus que nous sommes des peuples et des nations judéo-chrétiennes. On oublie tout ça. Bon, on ne sait plus. Donc, en même temps, on est déchristianisés. Le pape Jean-Paul II avait employé le terme à propos de l'Europe, et je crois que c'est une réalité. C'est lié, tout ça. Mmh. Bon, et en même temps, donc, plus de grand appel, et puis ce mercantilisme, cette société de consommation, donc tout ça crée un vide. Bon, alors on profite des joies de la consommation, du sexe, de l'argent. Mmh. Mais ça ne peut pas remplir nos vies. Et ça ne peut pas remplir les vies de mes personnages, qui cherchent tous autre chose.
Oui, oui, alors on ne parlera pas de ce qu'ils vont trouver. Mais c'est vrai, quand vous dites, bon, ben, ça ne peut pas remplir vie. Mais on voit maintenant quand même des tendances, même des choses qui n'ont pas une... Enfin, là, je vais m'attirer les foudres de certains. Une importance, par exemple, tout ce qui est bio. Le fait de vouloir revenir à des choses vraies, de qualité, simple, pas... forcément en monnaie, hein, c'est pas, ça compte quand même.
Non, bien évidemment. Mais quand je dis que nous sommes en train, la société, la France, que je décris dans Mécanique du chaos, ses banlieues, bon, la réalité est toujours la même, mais je pense que nous, Français, en même temps, nous avons déjà commencé un peu à changer. Depuis que j'ai écrit ce livre... entre 2007, comme je disais, et sa date de publication, c'est-à-dire 2017. Oui. Donc, avec une interruption, donc, mais quand même au long cours, j'ai écrit. Et je crois que nous avons changé. Je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui, enfin, je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui que quand j'ai commencé à écrire ce livre.
Oui, oui, parce que, voilà, je me disais, finalement, vous avez écrit ce livre, et c'est vrai qu'il fait écho en nous à bien des événements douloureux, des choses, et on se dit, mais comment peut-on être optimiste? Parce que c'est vrai aussi que tous les jours, on entend que des hommes se noient dans la Méditerranée, tous les jours, on entend des bombardements, des choses pas claires. Vous parlez des personnages en Turquie, où que l'on aille, il y a des problèmes. La Turquie, quel est son rôle? On ne sait pas. Voyez, on est désemparés.
On sait très bien quel est son rôle.
Oui.
Non, mais son rôle, il est double.
Vous êtes plus, sans doute.
Non, mais
plus
son rôle, il est double. Oui. Donc, c'est pour ça que je pense que nous faisions une erreur de vouloir, comme l'ont fait un certain nombre de présidents français, faire entrer à toute fin la Turquie dans l'Union européenne. C'était une absurdité.
Oui, parce qu'ils ne sont pas européens, effectivement.
Ils ne sont pas européens. Donc, c'était vraiment un cadeau empoisonné à faire à l'Europe qui n'en avait pas besoin. Donc, bien évidemment, quand vous dites que la situation n'est pas glorieuse dans le monde entier, mais ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas une nouveauté. Mmh. C'est l'histoire. Depuis la guerre de Troie, il y a toujours, quelque part dans le monde, une ville qui brûle. L'histoire, elle est effrayante et passionnante. Ouais. Nous sommes passionnés par l'histoire. Nous sommes passionnés par cette actualité tous les jours. On est obsédés, on regarde ce qui se passe dans le monde entier. Et en même temps, cela nous passionne et nous savons que c'est effrayant. Donc c'est la réalité. Et c'est cette réalité que j'ai voulu décrire en partie double, passionnante, effrayante parfois.
Et vous montrez bien dans votre ouvrage comme tout se tient finalement d'une certaine manière. Par exemple, vous parlez de ce qui s'est passé à Sétif, à un moment donné, oui. En 1900, alors attendez que je retrouve...
45.
45, oui. Eh bien, et c'est là qu'on a prononcé pour la première fois le mot djihad, probablement. Ici, il y a eu des événements très terribles, bon, des morts, beaucoup, oui. Et il y a quelque chose qui a commencé à basculer. Mais vous parlez également de la, du départ de, des Français d'Algérie à travers le père de, d'un de vos personnages, celui qui a fui. J'ai assisté à ces départs de, en dernière date, à la fin des ceux qu'on appelait les événements. Et effectivement, tout se tient parce qu'il y a des amertumes, il y a des rancœurs, il y a des tas de choses qui se jouent.
Oui, ce dont je parlais, on parlait des migrants tout à l'heure, je parlais de la tragédie des peuples aussi, oui, face à l'histoire.
Oui,
cette tragédie, ce que je veux montrer, c'est, je mets un peu de profondeur de champ, grâce à mes personnages, là c'est grâce à Bruno, mon policier.
Très attachant Bruno.
Bien sûr, pourquoi vous attachez à lui? C'est parce qu'il souffre, c'est parce que sa femme l'a plaqué, et qu'il se bat, c'est pour ça que vous l'aimez.
Oui, sans doute.
Non, mais moi, je suis...
Oui.
Et qui sait pas comment... Et qui continue, qu'il est courageux.
Oui, qui continue quand même.
Et qu'il est courageux, et qui fait son métier. Bien sûr, pour moi, j'essayais d'en faire un personnage attachant. Moi, je me suis attaché à tous mes personnages. Donc...
Oui, il y en a d'autres qui le sont moins, quand même.
Je comprends
le père.
Non, mais je vous expliquerai, si on a le temps tout à l'heure, comment... ce que je voulais dire par rapport aux Français d'Algérie.
Oui.
Ce que je veux montrer, c'est que... ces tragédies, qu'avant celles que nous avons, que nous rencontrons aujourd'hui, il y en a eu d'autres. Que les Français sont partis en Algérie au milieu du 19e siècle. On les a mis sur des bateaux avec des roues à aubes, ils ont traversé l'Algérie, ils se sont implantés là-bas. C'était de pauvres gens, pour la plupart. Ils ont travaillé la terre, ils ont mis en valeur la terre. Ils ont vécu comme les Arabes et les Berbères qu'ils ont rencontrés dans ce pays. Ils sont devenus un peu Algériens, comme le dit Camus.
Absolument.
Ils étaient frères. Et que brusquement, la roue de l'histoire se met en marche, elle est implacable, et que l'histoire de la révolution algérienne, tragique à tous égards, par ailleurs, va les faire partir. Ils rentrent en France, ils sont tués, ils traversent la mer, ils rentrent en France, ils sont plus ou moins bien accueillis. Donc c'est ça que je veux montrer aussi. Et si je dis, il y a le mot djihad qui est prononcé, c'est vrai, je me suis appuyé sur les rapports.
Oui.
Tout ce que je raconte là est vrai. Et, mais c'est aussi pour dire que le djihad, ce n'est pas une invention des années...
Récentes, des
années 2000. Et c'est aussi, grâce à cela, l'archéologue, il me permet de montrer qu'il y a eu un état djihadiste au Soudan, au milieu du 19e, qu'on a coupé la tête à Gordon Pasha, le gouverneur britannique, et puis qu'après, bon, ça s'est tassé, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ce que j'essaie de montrer... à travers tous mes personnages, j'essaie de les faire vivre dans le souffle de l'histoire, que le lecteur sente que l'histoire est là, presque son épaisseur, et qu'elle est complexe, que c'est une histoire complexe. Mon récit, je pense qu'il est simple, je pense que j'écris clairement, me semble-t-il.
Tout à fait, clairement. Simple. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que votre ouvrage a eu le prix du roman de l'Académie française.
Ils auraient pu se tromper, mais bon. Mais, en tout cas, ce que je veux, à travers la simplicité de mon propos, je veux montrer la complexité des situations, des êtres et de notre temps.
Alors, nous allons continuer, bien sûr, mais ça sera, hélas, notre dernière partie. Et nous écoutons, alors là aussi, dans votre ouvrage, il y a un morceau, c'est du jazz, Chet Baker, Valentine. Alors, nous écoutons.
You make me smile with my heart. You look so lovable. Photographable. get you my favorite work of art. It's your figure less than big. Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your head for me. Not if you really care for me. Stay, little Valentine. Stay. Of Valentine's Day.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Très peu de temps nous reste-t-il pour parler encore et encore de la mécanique, des mécaniques du chaos. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un article, écrit par Daniel Rondeau, un ouvrage passionnant et dense, et qui parle, Daniel Rondeau, tout à l'heure vous nous disiez, ça parle de l'histoire, en fait c'est l'histoire en marche, l'histoire dans laquelle l'homme peut être écrasé, mais peut survivre, et peut revivre.
Et être heureux.
Et être heureux, mais là, par exemple, vous nous citiez tout à l'heure de l'histoire ancienne, c'était quand même beaucoup plus limité. Là, on a l'impression que c'est le chaos, effectivement. On parle que du pourtour méditerranéen, mais si on va dans d'autres endroits, là aussi, c'est assez effrayant. Comment peut-on avoir de l'optimisme, parfois ?
Je pense qu'il faut avoir de l'optimisme, parce que si on n'est pas optimiste, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est la première chose.
Oui.
D'autre part, nous sommes en train de, je pense, de réaliser, de comprendre l'évolution du monde. Cette évolution, elle est compliquée à comprendre, très compliquée. Oui. Cette évolution technologique, les évolutions politiques, c'est très compliqué de comprendre que nous, on a failli, que nous n'avons pas construit l'Europe dont nous rêvions. Que c'est une nécessité de le refaire, qu'on ne peut pas refaire les erreurs, qu'on ne va pas faire l'Europe dont nous rêvions à 27. On va garder ce que nous avons. Il faut mettre un moteur dans cette Europe.
Quel programme ?
Non, mais bien sûr.
Daniel Rondeau, vous devriez vous présenter.
Non, mais je ne vais pas me présenter, mais si vous voulez, c'est ça.
Oui, mais oui.
C'est ça,
oui,
notre destin. Donc, c'est à chacun de réfléchir, de réagir. Quand je dis que j'ai écrit le roman... pour nous faire entrer tous dans la complexité des choses. Cette complexité des choses, il n'y a pas de raison qu'elle nous écrase. Nous pouvons, il y a des choses, des dangers qu'il faut identifier. Simplement, la plupart du temps, nous ne les regardions pas, ces dangers. Je parle de l'islamisme, je parle de la prise du pouvoir par des voyous islamisés dans les zones de banlieue ou dans certains lycées. Enfin, vous connaissez la situation,
oui,
à Toulouse.
Bien sûr.
Donc, nous
alors
ne voulions pas les voir. Il y avait un déni de réalité.
Il faut être plus, disons, drastique. Il faut être...
Non, mais je pense déjà qu'il faut regarder la vérité, la réalité.
Oui, mais encore.
Je pense que le premier pas de l'action, c'est de regarder et de voir et de dire. C'est là, une fois que nous avons... La lucidité, c'est pas être pessimiste. La lucidité, c'est au contraire pour moi la première marche vers l'avenir. Ça fait 30 ans que nous bandions les yeux sur nous-mêmes. Regardons notre réalité et tirons-en les conclusions.
Oui, alors tirons-en les conclusions. Alors maintenant, la dernière question que je vais vous poser, est-ce que actuellement c'est le sabre qui domine ou l'esprit ?
Ben, pour l'instant, je dirais que c'est toujours un mélange. Le sabre n'a pas gagné.
Non.
Je pense que le sabre, de toute façon, ne gagne jamais. Donc, il gagne de façon temporaire. Je parlais tout à l'heure du communisme et du nazisme, ils ont été défaits militairement. Ils nous ont laissé ces grenades explosives.
Des séquelles, mais on peut s'en relever.
Mais c'est à nous, bien sûr, nous avons tous les moyens, je pense à nous, naturellement je parle de façon un peu égoïste, à nous Français et nous Européens. Je suis un patriote français et je suis un patriote européen. Donc je pense que nous avons toutes les cartes pour nous relever. Ça prendra du temps, mais si nous décidons tous ensemble, c'est pas des actions isolées, c'est un projet pour la France et pour l'Europe. Si nous avons ces objectifs, des objectifs qui nous dépassent, qui donnent un sens à nos vies, nous referons une France heureuse, prospère, forte, dans une Europe puissante. Et à ce moment-là, nous nous tournerons vers notre berceau, qui est la Méditerranée, et l'Europe, une nouvelle Europe plus une nouvelle Méditerranée, nous ne serons pas les derniers de la classe.
Daniel Rondeau, merci pour ces phrases et merci pour votre ouvrage Mécanique du chaos. J'encourage nos auditeurs à le lire. Il est édité chez Grasset et à bientôt pour un nouveau roman.
Merci infiniment.
Au revoir.
À bientôt.